Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai comme invité Fanny. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Merci à toi.
Je t'ai invité aujourd'hui car tu as créé une boutique qui s'appelle Les Herbes Folles il y a 3 ans.
C'est ça.
On a fêté les 3 ans fin septembre.
Décembre,
n'importe quoi. Je voulais te faire participer à ce podcast car moi aussi j'ai été commerçante.
Cool.
Mais j'étais dans des grandes structures, donc tout était chapeauté par la maison mère.
D'accord.
Donc pour commencer, j'aimerais que tu nous parles un peu des Herbes Folles, du concept. Oui.
Alors les Herbes Folles, c'est une boutique de créateurs qui regroupe aujourd'hui 16 créateurs, où j'essaye de mettre en avant les talents locaux, l'artisanat local, le fait main, le savoir-faire et tout ce qui peut être fait dans de bonnes conditions, en essayant également depuis peu d'intégrer des ateliers, donc des ateliers qui sont souvent comme thème l'écologie. Comment faire des lingettes démaquillantes en coton, comment utiliser des bivraps pour l'alimentaire et ce genre de choses. Voilà, donc c'est du local, de l'artisanal et beaucoup d'amour.
Oui, et tu as aussi ta marque à toi ?
Oui, Bijoux Clair de Lune. Donc moi je suis créatrice de bijoux, tout est parti de là. C'est suite au fait que j'ai fait des marchés et que j'ai essayé de me faire connaître en tant que Bijoux Clair de Lune que l'idée des Herbes Folles est née.
Et moi, pour commencer, j'aimerais qu'on parle un peu de ton passé, parce que tu étais dans l'informatique avant,
oui.
Tu étais développeuse, je ne sais pas si on dit développeuse.
Développeuse web, ouais, ouais, web. Maîtrise en informatique. Ouais.
Et dans une grande banque
c'est ça.
Qui embauche beaucoup de personnes en informatique.
C'est ça, on le nom.
Voilà. Et je veux savoir, comment tu t'es dit, je suis salariée dans ce domaine, mais... complètement HS.
Ouais.
Ah, je vais ouvrir ma boutique de créateur.
Bah, ça a été beaucoup grâce ou à cause, aujourd'hui je dis grâce, à une maladie que j'ai eue. J'ai eu une grosse hernie discale qui m'a immobilisée pendant à peu près 2 ans. Des longs arrêts maladie, beaucoup de douleurs sous médicaments. Et ça a été une période, j'en ai profité pendant cette période pour me reconnecter à la création, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup dessiné, qui a beaucoup créé. Et l'éducation que j'ai eue et les parents que j'ai eus m'ont pas donné l'opportunité, on va dire, de suivre ces passions-là. Et cette envie, ça a toujours été tue, ça n'a pas été quelque chose que j'ai pu exprimer en famille. Et pendant ces 2 années où j'ai été clouée au lit, on va dire que je me suis reconnectée à la création, c'est la seule chose qui me faisait du bien. C'était de créer notamment des bijoux. Et on va dire que ça s'est... comment est-ce que je peux dire ça ? C'est tellement mal terminé, on va dire, au niveau douleur et au niveau tout ça, que je me suis vraiment remis en question. Et je me suis dit, même si la maladie que j'avais n'était pas fatale, c'est-à-dire c'était pas un cancer, c'était pas mortel, mais quand t'as énormément de douleurs comme ça tous les jours, pendant des mois, des semaines et des semaines, tu te poses forcément la question, et si je devais partir demain, qu'est-ce que je retiendrais de ce qui m'est arrivé jusqu'à présent ? Et pour moi, c'est devenu comme une évidence, en fait. Il fallait que je teste, il fallait que j'essaye de faire quelque chose que j'avais dans le cœur, tout simplement. Et du coup, c'était presque évident pour moi. J'ai tout lâché pour ouvrir mon entreprise de bijoux. Du coup, Bijoux Clair de Lune.
Et t'as pas eu peur de te lancer dans cette aventure ?
Alors, j'ai pas beaucoup réfléchi, peut-être. C'est peut-être pour ça que j'ai pas eu peur. Pour moi, c'était tellement un nouveau souffle que j'ai pas du tout pensé aux conséquences. Et j'avais tellement souffert pendant 2 ans physiquement que j'avais juste envie de me faire plaisir, en fait, au début. Il fallait que je crée, que je crée, que je crée. Et je voulais pas vraiment savoir ce que ça allait donner. J'avais juste besoin de créer. J'avais juste besoin de m'exprimer et j'ai pas eu peur parce que j'ai pas pensé en fait, j'ai pas pensé aller aussi loin, j'ai pas pensé dans 1 an où je serais où, dans 6 mois je serais où, c'était comme j'avais besoin de créer comme de respirer en fait, il fallait que je m'exprime de cette façon là.
Voilà. Et il y a des moments où tu regrettes de t'être lancée ?
Non, il n'y a aucun moment où je regrette parce que j'ai une vie qui est compliquée, je bosse tout le temps. Mais putain, je peux dire que je fais ce que j'aime, quoi. Et ça,
c'est
je pense que c'est pas donné à tout le monde.
Non,
ouais,
c'est sûr. Mais la boutique, tu l'avais pas ouverte avec des personnes ? Enfin, l'idée, c'était pas avec...
J'ai commencé à présenter mes bijoux. Pendant les marchés où je présentais mes bijoux, j'ai eu la première idée de monter une association pour créer des marchés de créateurs, pour, on va dire, multiplier mes chances de vendre et plus me faire connaître. Donc j'ai créé l'association Moka. J'ai demandé, bien entendu, de l'aide et j'ai eu des super associés qui sont venus m'aider. Et dans ces marchés-là, j'ai rencontré des gens qui étaient désireux également comme moi de monter une boutique. Tout est venu en fait des clients, parce que les clients arrêtaient pas de nous poser la question, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, arrêtaient pas de me poser la question, où est-ce qu'on peut vous retrouver, je vous achète un bijou aujourd'hui, mais si demain, après-demain, en plein milieu de la semaine, j'ai envie d'avoir un bijou de vous, j'ai besoin de vous, comment est-ce que je peux faire pour vous contacter et pour pouvoir vous réacheter quelque chose. Et c'était une question qui devenait tellement récurrente qu'au final ça m'a donné l'impression, en tout cas, qu'il fallait que j'aie un lieu pour avoir une certaine légitimité, pour pouvoir rassurer aussi le client. Et je voulais également ce lieu pour également porter les copains. Pourquoi ouvrir quelque chose de seul quand on peut également aider les créateurs autour de nous, d'autant plus quand j'en avais beaucoup, beaucoup rencontré avec cette première association Moka que j'ai créée. Et ça a été vraiment, ouais, cette idée-là. Et je sais pas si j'ai répondu à la question. Si, j'ai répondu à la question. On était quatre au début des Herbes Folles. Voilà.
Et maintenant, tu es seule.
Et maintenant, je suis seule. Les trois autres ont déménagé, ne sont plus à Strasbourg.
D'accord. Et ça n'a pas été dur d'être seule? Enfin, quand on part à quatre, on se dit, ouais, ça va, on est ensemble, on crée une synergie.
Bah, ça a été compliqué, d'autant plus que les choses se sont pas très bien passées. Je pense que quand on monte quelque chose comme ça, on était trop jeune, on n'était pas assez bien préparé, on se connaissait aussi pas assez bien nécessairement. Et je pense que nous tous, on a tous voulu donner le meilleur de nous-mêmes, mais on se rend compte dans la réalité de la vie et dans la réalité du sujet qu'on ne désire pas nécessairement la même chose, et ça a créé pas mal de tensions. Donc la première année était très 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 dure pour moi et pour eux aussi, je pense, mais ça nous a permis de nous connaître mieux et de savoir ce qu'on voulait. Et de toute façon, les choses de la vie qui sont complètement indépendantes des Herbes Folles ont fait que ces trois personnes ont dû déménager. Donc pour moi, quand je me suis retrouvée seule, pour moi ça a été un pari. Je savais pas si j'allais continuer ou pas, pour être honnête. Je savais pas si j'allais parce qu'au final, cette idée de créer une boutique, pour moi au début, ça a toujours été pour ne plus travailler seule dans mon coin, mais pouvoir travailler en collaboration avec d'autres personnes. Et le fait de me retrouver seule, ben, c'était en antithèse de ce que j'ai voulu monter. Donc ça a été compliqué, mais au final, je me suis rendu compte que même si c'est bête à dire, au final, quand on est seul, on assume seul ses bêtises. On porte seul les conséquences des décisions qu'on prend, et du coup, on peut avancer également plus vite. Mais ce n'est pas sans regret, parce que l'aventure à plusieurs peut être aussi merveilleuse, bien entendu.
Oui, il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui sont créées à plusieurs, mais le problème, enfin, c'est que quand on s'associe avec des gens, mais en fait, c'est comme un mariage, voire pire que ça.
C'est pire que ça, parce qu'on touche beaucoup à l'argent, on touche beaucoup, on a chacun nos espoirs, on a chacun nos façons de faire les choses et de faire les choses pour que ça marche. C'est-à-dire qu'une personne pense que ben, il faut absolument peindre les murs en vert pour que ça marche. Ouais. L'autre personne est persuadée qu'en les peignant en rose, ça marchera mieux. Je donne un exemple complètement con. Hein. Ouais. Mais et après, ça peut créer beaucoup de... Alors que les deux ont bon fond et les deux peuvent avoir raison. C'est pas du tout la question. C'est juste que ça peut... Les choses peuvent évoluer moins vite. Voilà. Ouais. Si on n'est pas avec des personnes qui montent toutes les deux le vert ou le rose, dans cet exemple un petit peu débile.
S'ils commencent voilà. Des petites choses qui commencent à râler sur des petites choses, on n'avance pas du tout en fait.
C'est ça. Bah, les premières histoires sont apparues, c'était pas du tout. J'étais pas du tout impliquée dedans, mais j'ai voulu défendre une amie et j'ai pas du tout pensé aux conséquences de ce que je faisais. J'ai juste voulu la défendre parce que je la sentais attaquée et au final, j'aurais jamais dû. Voilà. Ouais. J'aurais jamais dû faire ça.
C'est des moments que tu regrettes ou...
C'est des moments que j'ai beaucoup regrettés, oui, énormément. Et là, aujourd'hui, je pense que j'ai réussi à me faire la paix avec ce qui était arrivé. Mmh. Et voilà.
Mais je rebondis sur le précédent podcast de Jules, il dit toujours que l'univers conspire. Donc si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver aujourd'hui.
Bien sûr.
C'est pour ça que peut-être t'es seule, peut-être t'es allée plus vite... T'as pu construire ton beau projet, même si c'est très dur.
C'est très dur. Ça. Après, pour être très sincère avec moi-même, ça m'a permis aussi de me connaître et de me rendre compte que je suis pas forcément... Il y a des gens qui sont capables de travailler à plusieurs, d'autres qui ne sont pas capables. Et moi, je pense aussi et très sincèrement que je ne suis pas capable de travailler à plusieurs. Je suis trop viscérale dans ce que je fais. C'est mon bébé, c'est mon entreprise, c'est voilà. Et j'investis beaucoup, tant au niveau du temps qu'au niveau de l'argent, qu'au niveau de tout ça. Je donne tout ce que j'ai dans toutes les entreprises que j'ai fait, dans tout ce que j'ai fait. J'ai toujours tout donné. Et c'est vrai que c'est... du coup, je pense que ça peut être compliqué de travailler avec quelqu'un qui donne autant.
Ouais, voilà. Bah faut te suivre quoi.
Voilà, faut me suivre et puis ça a des côtés positifs et ça a des côtés négatifs et je l'accepte complètement. Voilà.
Le principal c'est d'avoir trouvé en fait le bon compromis. Et genre,
bien sûr.
Moi je sais pas si aujourd'hui je pourrais travailler avec des associés. Enfin je me dis c'est tellement compliqué, faut avoir le même rythme, faut être d'accord, faut avoir un grand lâcher prise, mettre c'est beaucoup ça. D'eau dans son vin, faire
ou alors faut que depuis le début en fait les règles soient dites comme ça, c'est-à-dire que faut ouvrir les choses et tout de suite tout acter en donnant ses limites à chacun, on va dire. Et ça malheureusement c'est pas quelque chose qu'on a fait dès le début. Voilà, on s'entendait super bien, on était un groupe de potes et on s'est pas rendu compte de que le pro, parce que moi j'ai tout de suite vu comme quelque chose de pro, on s'est pas rendu compte que le pro allait être quelque part, qu'il fallait être mieux préparé, tout simplement.
C'est toujours ça, en fait ça fait un peu penser à un projet start-up.
C'est ça.
Mais ouais, il y en a qui tiennent bien, il y a des start-up où il y a, voilà, comme la Shtukmap où ils étaient 4 au début, maintenant ils sont 2, enfin ça a changé. Enfin.
Bah de toute façon, hein, quand tu regardes autour de toi, bon nombre d'associations, bon nombre de projets collaboratifs, bon nombre, il y a énormément de soucis. Hein,
c'est ça.
Et quelque part, c'est dur à dire, mais c'est presque normal. Chacun, personne n'a vécu les mêmes choses, personne n'a les mêmes expériences, personne n'a le même passé, donc personne n'a la même sensibilité. Et je pense que c'est très compliqué de trouver quelqu'un avec qui tu t'accordes. J'ai trouvé, avec les années, quelqu'un avec qui je m'accorde. J'ai ouvert la deuxième boutique, la Fabrique à Bonheur, c'est Élise. Et c'est quelqu'un, par exemple, avec qui je peux bosser sans aucun souci. On a été confrontés à énormément d'épreuves depuis qu'on a bossé ensemble et on a toujours eu la même vision des choses. Et même quand on n'avait pas la même vision des choses, on s'est toujours comprises parce que je pense que c'est aussi une façon de réussir à se parler. Tout simplement, il faut réussir à s'ouvrir à l'autre, à lui expliquer ce qui est important pour toi et ce qui n'est pas important, et que l'autre puisse l'entendre également. Donc,
faut être bienveillant, quoi. Et c'est être ça. Un bon communicant.
C'est ça. Il faut réussir à bien communiquer, il réussir à être bienveillant envers l'autre et envers soi-même également. Voilà.
J'aurais savoir, en 3 ans, qu'est-ce que tu as appris grâce à la boutique, être entrepreneur, je pense. Enfin,
alors j'ai appris énormément de choses, forcément.
C'est 2-3 exemples parce que je pense que la liste est immense.
Et oui, j'ai appris déjà me connaître mieux moi-même. J'ai appris que j'adorais le contact client. C'est quelque chose que j'ai pas du tout commencé cette aventure en me disant chouette, j'adore vendre, pas du tout. J'ai commencé cette aventure en me disant que j'adorais créer. Et en fait, le fait de parler de ses créations et des créations des autres aux autres, c'est quelque chose de faire découvrir, hein, tout simplement, les métiers, l'artisanat. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'ai réalisé que je n'avais pas conscience de l'investissement que je pouvais faire aussi, que je pouvais mettre en œuvre dans ma vie par rapport à un projet. J'ai vraiment tout donné en termes de temps, en termes de nervosité, en termes de fatigue. Enfin, je savais pas que je pouvais aller aussi loin que ça, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose qui a été une surprise pour moi. Ça m'a aussi appris à me remettre en cause, tout simplement, à remettre en cause tout ce que je pensais être vrai jusqu'à aujourd'hui. Parfois, il faut tout balayer, il faut repartir de zéro, c'est pas évident. Ça m'a appris des millions de choses. Après, toutes les lister, je ne sais pas. Et ça m'a appris aussi à gérer le côté humain qui, quand on travaille dans un bureau, on n'a pas nécessairement le même contact que quand on est en tête d'une boutique. C'est quelque chose qu'on apprend. J'apprends encore tous les jours à faire le mieux possible. Voilà.
Donc, la liste est tellement grande que en 3 ans, par rapport à, tu passes de développeur à une boutique, enfin les choses que tu as apprises sont folles et je pense que ça se compte pas sur les doigts d'une main, ni de deux mains, ni de, oui. de 20 mains.
Ah. Oui, oui, oui. Et puis c'est difficile, je sais pas pourquoi, mais c'est difficile pour moi à exprimer. Voilà, ouais. Je pense que c'est une question que je me suis jamais posée. En fait, je prends les défis au jour le jour et je prends les choses qui arrivent au jour le jour. Et je crois que j'ai pas encore pris ce temps-là de perspective, de reprendre en fait qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que...
Mais peut-être que t'en as pas besoin en fait. Enfin...
Je me suis beaucoup posé la question qu'est-ce que j'aurais dû faire autrement. Enfin, c'est pas français ce que je viens de dire, mais comment est-ce que j'aurais pu faire autrement. Mais qu'est-ce que ça m'a appris. C'est vrai que c'est une question que je me suis pas beaucoup posée.
Mais c'est, enfin voilà, moi j'aime bien poser des questions bizarres.
Mais tu as bien raison. Et c'est pas du tout des questions bizarres en plus. C'est pas une question que je me serais posée. Toute seule naturellement, mais c'est très bien que tu me la poses.
T'as déjà fait travailler le cheminement. quel mot te définirait en tant qu'entrepreneur?
Alors, le mot qui me définirait, tout simplement, c'est fonceuse.
Fonceuse.
Voilà, je suis une fonceuse.
C'est-à-dire genre tête brûlée, ou des fois, t'arrives à dire « ouais, je fonce, mais... »
Alors, le plus sincèrement du monde, et j'aime pas répondre ça, mais c'est la vérité, non, plus tête brûlée, en fait.
Ouais.
Quand j'ai quelque chose dans le cœur, je l'ai dans le cœur, et je suis prête à abattre toutes les portes qui me...
Je crois que t'allais dire les gens.
Absolument pas.
Je vais abattre tous les gens.
Absolument pas. Mais quand je veux quelque chose, je mets tout en œuvre pour que ça se passe. Après, ouais. Si ça ne se passe pas, je n'ai aucun regret. Oui. Voilà, c'est pas pour autant non plus que je ne vais pas rebondir et que je vais pleurer pendant 3 ans. Mais par contre, oui, je sais mettre une sacrée dose d'énergie pour essayer en tout cas d'avoir quelque chose qui s'approche au mieux de ce que je veux.
Tu la trouves où, cette énergie ?
Dans mon éducation, dans mon passé, je pense, j'ai vécu 18 ans en Afrique, j'ai vécu une guerre civile,
ça calme, ça, voilà. Enfin, ça...
J'ai eu une éducation pas facile, vraiment pas facile, mais je remercie mes parents quelque part, parce que cette éducation-là m'a donné une putain de force, en fait, vraiment.
C'est principal. Voilà. Ils font du mieux qu'ils peuvent.
C'est ça.
C'est clair. Pour moi, tu fais partie des entrepreneurs qui bossent énormément.
Mm-hmm.
Je ne dis pas que les autres ne bossent pas beaucoup, mais je sais que tu as un quota d'heures par semaine qui fait très peur.
Oui.
On est à combien?
Enfin, on est à plus de 90 heures semaine. Voilà.
Ah non, parce que tu dis un double travail, 70 heures. C'est dur, hein,
ouais.
Mais 90 heures.
Je ne m'arrête pratiquement jamais. Voilà, je dors, je mange, je travaille, je dors, je mange, je travaille. C'est très dur à vivre pour mon copain.
Ouais.
Là, mes résolutions 2020, c'est prendre une journée par semaine. Donc, je vais essayer de travailler un petit peu moins cette année.
Mmh.
Au moins le dimanche.
Et... Ah oui. C'est pas bête. Mais t'as pas pour projet 2020 de peut-être voir pour prendre quelqu'un à mi-temps ou...
Si les finances le permettent, ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, pas du tout même. Mais si jamais ça se développait suffisamment, mm-hmm. Oui, ça pourrait être... ça fait partie des petits rêves que je pourrais...
Voilà, comment t'arrives à être en forme quand tu travailles 90 heures semaine? Enfin, t'arrives... Enfin, je sais que des fois, j'arrive, je te sens fatiguée, mais t'as toujours le sourire, le mot gentil...
Ça, c'est gentil.
L'empathie pour les gens, et moi, je me dis... Mais moi, à 90 heures semaine, je suis par terre. Je rampe. Enfin, comment t'arrives à, même avec les gens, être patient avec eux? Parce que moi, je travaille dans le commerce.
Oui, oui, oui. Ouais.
Et des moments, là, je suis désolée, hein, mais je vous fais une confidence. Quand on est vendeur et qu'il y a un client chiant,
oui.
On fait oui, 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 oui. Et au fond, c'est non, 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 non. Pars.
Laisse-moi tranquille.
Voilà, c'est ça. Et moi, je me dis, t'as toujours cette voix douce, aimable, gentille. Mais comment tu fais, tu vois? Parce que peu de personnes y arrivent.
Merci beaucoup, déjà. Le compliment me touche énormément.
De rien.
Et je pense que j'ai juste... comme j'ai travaillé beaucoup en tant que salariée également, j'ai été en entreprise. Je pense que tous les jours, pour moi, je m'émerveille de la chance que j'ai, en fait, tout simplement. Alors, je sais que quand je dis ça, j'ai mon copain, par exemple, qui me dit « c'est pas une chance, t'as bossé pour oui. ». Et c'est pas par chance que t'es ici aujourd'hui, mais pour moi, j'arrive pas à voir ça autrement encore que j'ai la chance de faire ce que j'aime, en fait, réellement. Et ça me porte, et ça fait que je compte plus la fatigue, je compte plus les heures, je compte plus les déceptions, je compte plus, euh, Je compte plus tout ce qui a pu m'arriver de mal, en fait. Quand je fais le résumé de ma vie aujourd'hui, je me dis, putain, j'ai la chance de faire ce que j'aime. Et il n'y a que ça qui ressort, en fait. Voilà.
Parce qu'il y a aujourd'hui énormément de personnes qui rêveraient de vivre leur passion et qui cherchent à mener ça. Et donc, ouais, je te félicite. Et pour eux, on peut leur dire que bah, c'est possible. Ça demande
c'est possible.
Beaucoup de travail.
Beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'endurance aussi. Faut pas lâcher prise, faut pas... Voilà, mais c'est possible. Bien sûr, c'est possible. Si je l'ai fait, plein d'autres peuvent le faire.
Oui, comme plein d'autres l'ont fait avant c'est et le font ça. Actuellement.
C'est ça. Après, il faut aussi être au courant que c'est pas quelque chose de facile. Mais je pense que toutes les personnes qui se lancent savent que c'est pas quelque chose de facile.
Mais justement, en parlant de que ce n'est pas facile, j'aimerais qu'on revienne sur ta boutique avant. Enfin, ouais. Moi, je connais l'histoire parce qu'on en a parlé.
Ouais.
Tu étais avant rue du Vau et tu as déménagé rue du Jeu des Enfants.
Rue du Jeu des Enfants, oui, exactement.
Et ça a été une galère.
Ça a été assez catastrophique, ouais.
Parlons de ça parce que moi j'aime bien parler des choses un peu cata et montrer que on peut s'en sortir.
Oui, on peut s'en sortir.
Si tu peux me parler assez rapidement.
Alors, il y a trois aspects, on va dire, qui ont été un petit peu compliqués. Le premier, c'est les banques. Il m'a fallu un financement pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et ça a été toute une aventure, dans le sens où le premier rendez-vous à la banque, j'y suis allée quelque part à la fleur au fusil. Hein. Mm-hmm. J'étais toute contente, toute motivée. J'avais préparé un dossier de 40 pages que j'avais imprimé, que j'avais relié, que j'avais tous mes arguments bien en main. Le premier rendez-vous a duré approximativement 3 heures. Il m'a écouté, il m'a donné plein de conseils. Il était super enthousiaste sur mon projet. Il m'a dit que c'était génial. Et il m'a dit, vous inquiétez pas, ce sera validé dans une semaine. Tout au plus, vous aurez la réponse, ce sera oui.
Donc, t'es sortie trop heureuse.
Voilà, je suis sortie, j'étais tout soleil, quoi. C'était la fête. Et la semaine d'après, je me suis dit, je vais pas le harceler, je vais pas l'appeler parce que j'ai pas la réponse. Donc, j'ai attendu 2 semaines. Et à partir de ces deux semaines-là d'attente, je l'ai appelé, on va dire, tous les 2 à 3 jours. Parce que bon, moi, il fallait aussi que je sache où j'en étais, quoi. Et j'avais des choses à signer, il fallait que j'avance. Il fallait que je sache si j'aurais ce financement ou pas. Et tous les 2 à 3 jours, en me disant, non, monsieur est en réunion, monsieur est en réunion, monsieur est en réunion, pendant approximativement 3 semaines.
C'est un peu bizarre.
Oui, et au bout de la 3e semaine, en fait, j'ai appelé, comme à ma petite habitude, hein, tous les 2 à 3 jours la banque, et là, la demoiselle à l'accueil m'a dit, oh, mais monsieur machin, bah, il nous a quittés.
Quoi ?
Voilà.
Il a changé de banque hein.
Visiblement, il aurait pris ses affaires, il serait parti, il aurait été muté ailleurs.
Oh, wow.
Voilà, donc j'ai demandé à reparler à quelqu'un d'autre. Cette personne n'était pas du tout au courant de mon dossier. Ils avaient perdu toute trace de ce que j'avais fait, donc j'ai dû tout réimprimer. Ils m'ont demandé de me redéplacer, de réimprimer le tout, de revenir. Et j'ai dû tout réexpliquer... au nouveau conseiller qui m'a pris pas beaucoup de temps cette fois-ci pour moi. Je crois que je suis même pas restée une demi-heure dans le bureau. Et quand je suis partie, il m'a dit « Vous inquiétez pas, vous aurez la réponse rapidement, merci, au revoir. » Et donc rebelote, regalère. Hein, semaine d'après, j'appelle, toujours pas de nouvelles. J'ai dû attendre trois semaines, je pense, pour avoir une réponse. Et il ne m'a pas donné la réponse au téléphone, il m'a envoyé un mail absolument formidable que je pense que j'imprimerai et que je ferai encadrer le jour où j'aurai assez de recul, où c'était marqué « Bonjour mademoiselle, je suis au regret de vous informer que nous ne vous donnerons pas cet argent pour votre prêt, mais par contre, si vous avez dans votre entourage ou dans votre famille des personnes qui souhaitent accéder à un prêt chez nous, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer, nous sommes tout de suite pour les aider dans leur projet. » Voilà.
Ils ont dit ça, mais c'était
absolument fantastique.
C'est horrible. Ouais. Genre, toi, c'est non, mais c'est... si t'as des gens.
Voilà. C'était assez épique, comme réponse. Voilà.
Mademoiselle.
Mademoiselle.
Sympa.
Voilà. Et du coup, ben, j'ai dû... parce que tout ça, en fait, on se rend pas compte. Mais au final, j'avais attendu pratiquement un mois pour le premier. J'avais attendu pratiquement 3 semaines pour le deuxième. Pour la deuxième réponse, oui. Ben, tout ça, au final, c'est beaucoup de temps. Et quand on est dans des projets comme ça, on a un calendrier à tenir. On a, voilà, on a des limites, des dates, des deadlines à respecter. Et ça fait monter un stress absolument de fou. Parce que ben, on se dit... Moi, j'osais pas trop aller dans 36 000 banques en même temps. J'aimais bien attendre la réponse avant d'aller ailleurs, mais j'ai été obligée là pour le coup de dépasser un petit peu mes limites, mes peurs et de faire tout ce qui était faisable pour réussir. Voilà, tout simplement.
Oui, parce que t'as l'histoire, non mais elle est, enfin l'histoire est compliquée de base. Au-delà de ça, c'est genre tu avais la boutique de Zarfol, quelqu'un devait, enfin Rubivo, quelqu'un
alors,
devait
oui,
prendre.
Alors oui, alors ça c'est le deuxième aspect, c'est-à-dire que il fallait non seulement que j'arrive à avoir le financement pour avoir ici, mais il fallait également que je trouve quelqu'un qui reprenne un ancien local. Et pour reprendre l'ancien local, j'avais trouvé quelqu'un qui m'avait dit « je vous promets, je vous le prends, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci ». Donc bah, moi j'étais rassurée et je lui ai dit « écoutez, on n'a qu'à signer un papier pour sceller la chose, même si vous ne le prenez pas tout de suite ou qu'on ne peut pas faire les choses dans l'ordre tout de suite. Ah non, mais je ne peux pas signer ». Il avait toujours d'excellentes raisons pour ne pas signer. Alors peut-être que j'ai été naïve, peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, moi je l'ai cru et... Excusez-moi. Je l'ai cru et j'ai fait traîner les choses parce qu'il m'a demandé de les faire traîner, mais je croyais vraiment en sa bonne foi. Et c'était donc l'été dernier. J'étais censée prendre les nouveaux locaux en septembre, début septembre, sachant que pendant tout août, je n'étais pas sur place, donc je n'étais pas à Strasbourg, je ne pouvais absolument pas gérer cette affaire-là. Et ce monsieur m'a quand même appelé le 13 juillet au soir pour me dire « bon ben écoutez, finalement je le prends pas, merci, au revoir ».
Et combien de temps il te fallait pour trouver une autre personne avant de partir?
Et donc du coup, en gros, j'avais 15 jours. Voilà, j'avais 15 jours pour trouver une autre personne, sachant que moi, bah, j'avais vu qu'il m'avait promis que c'était bon, j'avais déjà donné mon engagement pour le futur local. Et donc du coup, j'avais un énorme trou dans mon budget et j'ai eu, en plus de tous ces problèmes avec la banque, oui, ça a été épique, ouais. Ça a été assez catastrophique, ouais.
Mais dans tout ça, je me dis, à la fin, le topo final, c'est... Le local, tu l'as eu, il ne t'est pas passé sous le nez.
Non.
Il est très bien situé.
Ouais.
Quelqu'un a quand même pris la boutique de Rue du Vau. Donc,
oui.
Ça, je sais que c'est des sommes assez grandes, des pas de porte à Strasbourg. Ça,
ouais.
Ça fait mal.
Ça fait mal, ouais.
Et tu as eu quand même un prêt à la banque.
Oui.
Parce que si le local... Rue du Vau n'avait pas été pris, t'aurais pas eu assez d'argent.
J'aurais pas pu accéder à ici, ou j'aurais trouvé d'autres solutions. Hein. C'est la vie d'entrepreneur. Hein. On rebondit toujours, on se dit toujours qu'on n'y arrive pas, et puis on rebondit. Mais en tout cas, j'aurais dû mettre en œuvre encore énormément de choses, énormément de stress pour pouvoir accéder. Ça aurait été encore une autre bataille. Mais finalement, oui, j'ai trouvé des personnes qui étaient très motivées pour reprendre l'ancien local. Et d'ailleurs, aller les voir. De Rue des Vaux, c'est absolument merveilleux ce qu'ils font, c'est également de la création.
D'accord.
Voilà.
Je suis pas encore allée voir et c'est pas loin de chez moi, mais je trouve que c'est ce qui est dommage dans cette rue, on le sait toutes les deux, c'est que c'est pas une rue hyper passante.
C'est pas une rue hyper passante, mais en même temps c'est une rue qui est cosy, c'est une rue où moi je m'y suis super bien sentie pendant l'année qui a précédé mon départ. C'est une rue qui est cosy, c'est une rue qui a beaucoup, c'est un quartier qui a beaucoup de charme.
Oui, voilà. Bah c'est centre-ville quoi, enfin,
c'est ça.
Côté de Rue des Frères.
Puis au final, ils sont vraiment juste derrière la cathédrale.
C'est ça.
Voilà. Ouais. C'est quand même un emplacement de choix, malgré effectivement que ce soit pas la rue la plus passante de l'univers.
Mais ça, c'est dommage, en fait on connaît le Rue du Vau, on connaît le Rimini, le Léopard et après, il y a un trou.
C'est
genre néant. Et t'es contente de l'emménagement rue du jeu des enfants?
Oui, ça a été, ça a été aussi très fatigant. Je m'arrêtais le soir uniquement quand mes jambes ne me supportaient plus. C'est la première fois que je ressens ces douleurs-là.
Ah oui.
Mais je bossais, je pense, du 14-15 heures par jour. Facile dans les travaux, dans l'emménagement. Parce que forcément, quand on ouvre quelque chose, on annonce une date. On ne peut pas ouvrir en disant « j'ouvrirai quand je veux ». Donc la date était annoncée. Et on le sait tous que quand on a des plans, il y a toujours des imprévus. Il y a toujours des choses qui ne vont pas comme on veut. Il y a toujours un mur qu'on voulait percer et qu'on ne peut pas percer. casser parce que c'est du béton.
Les porteurs, ceux-là, si vous le cassez, il y a tout qui tombe.
C'est ça, un mur qu'on voulait enlever, mais qui était un mur porteur. Enfin, voilà. Il y a toujours, toujours des imprévus. Et il a fallu pallier à ces imprévus, donc moi et Bruno. Mon copain, que je remercie beaucoup pour m'avoir aidé aussi, en plus de son travail, tous les soirs il venait à la boutique pour m'aider à finir les choses que j'arrivais pas à finir toute seule, et ça a été cool de sa part.
C'est important d'être soutenu par la personne avec qui on est, sinon...
Oui, très important.
Si on est, enfin, c'est soit elle est sur la même phase, soit elle arrive à comprendre que faut qu'elle se mette sur cette phase.
Ben après, ça peut fluctuer. Hein.
Il y a des hauts et des bas.
Des hauts et des bas, ouais. Surtout avec quand on est... Je pense que ça doit pas être facile de vivre avec quelqu'un qui bosse autant et qui est autant.
On lui demandera.
On fera un deuxième podcast.
Et quand t'as fait l'inauguration, sincèrement. Il y a eu un de ces mondes.
Oui, c'était la folie. Oui, genre, c'était assez hallucinant. Les gens n'arrivaient plus à rentrer.
Une rockstar qui était au fond de la boutique, ou je sais pas. Pourtant, il n'y avait pas écrit qu'on invitait des gens
particuliers. Ouais, mais je me suis fait vraiment surprendre par
c'était cette incroyable.
Folie-là. Ouais. Et j'étais pas du tout préparée à ça, en fait. Pas du tout, du tout, du tout. Donc, il y a plein de choses que j'aurais voulu faire ce soir-là, un discours, voilà.
T'as chanté ?
Que j'ai pas pu. Donc, voilà, j'ai chanté. Voilà. Ça, de toute façon, c'était mon petit plaisir à moi. Et, mais c'était en fin de soirée, une fois que la pression était déjà un petit peu redescendue. Et ma prof de chant, Elena, qui a une voix extraordinaire, qui a chanté ce soir-là, de toute façon, ne m'aurait pas laissé le choix de ne pas chanter.
Non, mais c'était génial. Et je me suis dit... Waouh, il y a beaucoup de boutiques qui ont autant de monde quand ils inaugurent, alors qu'il n'y avait même pas d'influenceurs, rien en fait.
Non, c'était incroyable. Je les ai invités, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'influenceurs.
Ouais. Mais c'est normal.
Répondu présent. Je pense que c'était la date, beaucoup
même
de
même, c'est un événement commercial. Donc
oui,
on sait que
oui, c'est vrai, bien sûr. Ouais.
Ça vient pas forcément.
Il y a Marie qui m'a beaucoup aidée aussi sur l'organisation de l'événement, et je pense que c'est aussi grâce à elle qu'on a eu ce succès-là, donc je la remercie encore une fois. Malheureusement, et je te remercie toi de m'avoir donné le contact.
Allez. Je suis contente d'avoir des bons contacts à donner. Et maintenant, pour une partie que j'aime le plus dans ce podcast, je dois savoir quel est ton plus gros défaut.
Alors, j'ai plusieurs gros défauts, j'en ai pas qu'un.
Non. Si c'est plus qu'un défaut, je n'accepte pas.
D'accord, donc il faut que j'arrive à trouver.
Non, mais il y a un truc. C'est pas que tu te descends, hein. C'est qu'on montre aux gens que oui, on a tous des défauts et il faut les assumer.
Bah, je pense que les trois gros défauts auxquels je pense ont tous la même racine, c'est je pense mon hypersensibilité.
Ouais.
Je pense que je vis les choses trop fort et que du coup ça peut créer des incompréhensions avec les autres qui vivent les choses, mais peut-être plus, de façon plus reculée que ce que moi je peux vivre à l'intérieur de moi. Et du coup ça peut créer j'ai fait souvent des maladresses à cause de cette sensibilité là qui était trop élevée, mais
ça arrive, enfin c'est particulier l'hypersensibilité en
il y a beaucoup de monde trop, on vit les choses beaucoup trop fort, et pour le coup les herbes folles, surtout que là on est là pour parler du professionnel, quoi. Les herbes folles, c'est quelque chose de très viscéral du coup chez moi. Je me suis battue comme une tarée, en fait, pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et du coup, ma sensibilité fait que... Je pense que c'est mon plus gros défaut aujourd'hui. Il faudrait que j'arrive à prendre plus de recul par rapport à tout ça.
Ouais. Mais je sais que c'est difficile. Voilà. C'est une particularité... Non, mais c'est dur.
Peut-être en 2025.
On se laisse. Moi, je me dis déjà qu'on est un peu sensible. Moi, je suis un peu sensible. C'est dur.
Ouais.
Mais qu'on est hyper sensible, mais c'est... C'est énormément de travail, il faut faire, enfin voilà.
Je prends beaucoup sur moi, je prends énormément sur moi, et parfois peut-être pas assez, je sais pas. En tout cas, je prends les choses comme elles viennent au fur et à mesure. Chaque jour a son lot de grands bonheurs, et chaque jour a son lot aussi de batailles ou de choses qui sont moins agréables à entendre et moins agréables à faire, tout simplement. Et j'ai pas de schéma, j'ai pas de règles, je prends les choses au fur et à mesure, voilà, tout simplement. Je m'encombre pas de ce qu'il y a eu hier, et je m'encombre pas non plus de ce qu'il y aura demain.
Ouais, voilà. Tu vis dans le présent.
Chaque jour s'attache, en fait, tout simplement.
Ouais, ça c'est bien.
Et peut-être que c'est comme ça que je réussis à quelque part à vivre avec cette trop grande sensibilité.
En fait, sensible ou pas sensible, l'idéal c'est qu'on vive tous dans le présent, en fait.
Oui, c'est sûr. T'es sûr.
Donc sur tes 90 heures semaine, il y a bien un truc par contre que tu n'aimes pas faire. C'est obligé.
Les tâches répétitives.
Ouais.
Alors que ce soit dans l'administratif ou dans le bijou, ou dans... à partir du moment où je dois faire 5 fois le même bijou, ça m'exaspère.
Ouais,
quand, voilà, ou quand je dois classer des papiers, qu'il faut toujours faire le même geste. Voilà. Les tâches répétitives, c'est quelque chose qui m'exaspère vraiment. Et c'est ce que je n'aime pas faire.
Ouais, je comprends. C'est sûr que ça fait travailler à la chaîne, quoi.
C'est ça.
Ça manque de créativité aussi.
Et c'est le contraire de ce que j'essaye de monter, en fait. Ouais.
Ouais.
Mais on est tous obligés de passer par là. Et même une entreprise 100% créative est obligée de passer par les tâches répétitives.
C'est ça. Il faut prendre sur soi et l'accepter.
C'est ça.
Est-ce que tu as une anecdote, un peu de la honte à nous raconter? Non, un truc marrant?
J'ai des anecdotes de la honte, hein, plein. Mais
je croyais que t'allais dire non, si je croyais que t'allais dire.
Mais dans le milieu pro, j'arrive pas et j'ai sollicité mon conjoint.
Il y a pas un truc, c'était vraiment Non.
Ben, je pense qu'il y en a eu, mais c'est sûr qu'il y en a eu. Hein. Je suis pas mieux que quelqu'un d'autre, mais j'arrive vraiment pas à me rappeler de...
Un truc marrant que t'as vécu
Ben, j'en ai, mais c'est pas pro.
Ah.
Dans le pro, j'ai eu beaucoup de choses, mais des anecdotes de la honte qui font
rigoler aujourd'hui. Pas la honte, mais je sais pas, des trucs qui t'ont marqué ou... Non.
Bah, y a quelque chose qui me fait... sur lequel je suis un peu honteuse, hein, et ça c'est des choses qui arrivent peut-être un peu tous les jours, c'est que j'ai une maladie, alors je sais plus du tout comment on appelle, la proso quelque chose, je ne reconnais pas les gens, en fait.
Ah.
C'est-à-dire qu'une personne peut passer 4 ou 5 fois dans la boutique dans la journée,
ça,
pour
marrant.
Le peu qu'elle change de bijou les 5 fois qu'elle passe, je ne vais absolument pas la reconnaître parce que je m'accroche à des détails en fait pour reconnaître les gens, parce que je suis consciente de mon défaut, donc je m'accroche à une paire de bijoux, je m'accroche à une écharpe, je m'accroche à un détail qui va faire que je vais reconnaître la personne. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que des clients se vexent réellement parce que je ne les ai pas reconnus. Et donc, du coup, je profite de ce podcast pour m'excuser.
Je savais pas.
Ah, si,
et
si,
moi, si tu t'accroches à quoi, aux lunettes?
Mais tu sais, j'ai déjà dit bonjour madame à ma mère en arrivant dans une salle d'attente. Hein.
Non,
c'est réel, hein, c'est déjà arrivé. Donc, en faisant du commerce, ça te fout un peu mal, un peu beaucoup mal même. Par
t'as dit bonjour à ta mère.
Et du coup, c'est ne le prenez surtout pas mal si je ne vous reconnais pas. C'est que...
Ta mère, elle l'a pas pris mal.
Mais ma mère est un peu comme moi, elle m'a répondu bonjour madame. Et puis on s'est regardé et 2 minutes après, on a explosé de rire, elle et moi, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait l'air complètement conne. Mais ça m'est déjà arrivé aussi en plein milieu d'un film de demander à mon copain qui est ce monsieur. Et,
c'est genre je connais.
Et Bruno me répond mais en fait, Fanny, c'est l'acteur principal là, du film. Voilà, donc ça donne lieu à des moments plus ou moins embarrassants.
Oui.
Voilà.
Genre, t'étais où le début? T'étais pas là?
Mais
ah ouais,
si, ouais.
Ça, je savais pas.
Si, j'ai
alors
un
que
souci
moi,
avec ça.
Je reconnais trop bien les gens que j'esquive les gens que je veux pas avoir. Tellement, je fais oh punaise, non? Et je pars dans une autre rue. Si tu veux, je te le donne un peu.
Bah, écoute, on peut. On peut échanger, y'a pas de soucis.
J'aime finir mon podcast avec une question.
Ouais.
C'est quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné?
Alors, le meilleur conseil qu'on m'a donné, alors ça va paraître peut-être un peu...
Non, mais après, c'est ton meilleur conseil. Je ne juge pas, personne ne juge derrière. Voilà.
Ça a été de me méfier et de me protéger. Voilà. L'hypersensibilité fait que quand on arrive à me prendre par les sentiments et que j'aime une personne et que je donne absolument tout ce que j'ai, tout ce que je peux donner, parfois au-delà de ce que la personne attendait. Et ça m'a valu pas mal de... Et après, je me sens trahie, nécessairement.
Oui.
Et du coup, oui, je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on m'a donné et qu'il faudrait que je l'applique beaucoup plus souvent d'ailleurs. Me protéger, tout simplement. Me méfier,
oui,
me protéger. Ouais.
Protéger des autres.
C'est pas un milieu de bisounours.
Non.
Et il faut faire attention à soi. Voilà, tout simplement.
Pour pas sortir à la petite cuillère, là.
C'est ça.
Donc, ce podcast. C'est fini. Merci, Fanny.
Merci à toi, Priscilla.
D'avoir participé.
Et je t'ai reconnue.
C'est les lunettes.
Ça doit être...
Si un jour je mets des lentilles, tu me dis bonjour, madame.
Tu me tacles direct.
Non, je dirais, c'est moi. Je vous dis à bientôt dans un
à
nouvel article. Et à
merci
bientôt.
Beaucoup pour cette proposition de podcast.
Ben de rien. Et je vous fais des bisous. Et à bientôt.
À très vite.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste 2 minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.